Vous écoutez RTL.
Tout de suite, la vérité sur l'huile de palme. Bonjour Emmanuel Grundmann.
Bonjour.
Bonjour,
vous
bienvenue.
Primatologue. Comment vous avez eu l'idée, l'envie de vous intéresser à cette huile de palme que l'on retrouve à peu près partout dans notre alimentation et dans nos produits du quotidien aussi d'ailleurs?
En fait, je suis un peu tombée dedans, contrainte et forcée, j'ai envie de dire, en arrivant à Bornéo. Donc, je travaillais sur les orangs-outans. Et la première fois où je me suis rendue sur place, bon, d'abord, je devais y aller en 1997 pour la première fois. Ça a été déplacé à cause d'immenses incendies de forêt. Et par la suite, on s'est rendu compte que c'était lié à l'expansion du palmier à huile. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai vu évidemment cette déforestation. D'autant plus que moi je travaillais sur des orangs-outans qui étaient issus du braconnage et qui notamment liés à la déforestation et à l'avancée de l'huile de palme.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient plus se nourrir ces orangs-outans ?
En fait, ils avaient plus de forêt. Et donc ils erraient dans les plantations, et donc du coup je me suis dit, mais c'est quoi cette huile de palme en France? C'était il y a 20 ans, ça me rajeunit pas, mais et on n'en entendait quasiment pas parler. Moi, quand je revenais et que je parlais de l'huile de palme, personne ne savait trop ce que c'était, et donc du coup voilà, j'ai commencé à m'y intéresser en lien avec ces orangs-outans.
Et pourtant, il y a 20 ans, l'huile de palme a été déjà présente un peu partout dans des produits qu'on utilise tous les jours. La déforestation, on va y revenir bien sûr en détail avec vous, mais d'abord on a des questions toutes simples pour connaître cette huile de palme. Voilà, comment elle est produite, est-ce qu'elle est vraiment dangereuse pour notre santé? Tout ça, les réponses, c'est dans un court instant.
La curiosité est un vilain défaut.
On ne peut pas en acheter dans le commerce et pourtant on la retrouve sous le terme d'huile végétale.
RTL.
On en retrouve de plus en plus, mais sous forme cachée dans les aliments, et on n'arrive plus à retrouver l'huile de palme.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'huile de palme pose deux problèmes. Premièrement, elle est très riche en acides gras saturés. Ce sont ceux qui nous bouchent les artères. Le second problème, c'est qu'elle est moins recommandée que d'autres huiles parce qu'elle ne contient pas assez des fameux oméga 3 et oméga 6.
Curiosité, indiscrétion, révélation. Les curieux sont sur RTL.
L'huile de palme, il y en a à peu près partout. Ça vous intrigue, vous en entendez parler, vous dites oui, mais pourquoi c'est vraiment si dangereux? Pourquoi ça abîme notre nature? On vous donne toutes les réponses avec la primatologue Emmanuelle Grundmann. Alors on se dit, mais pourquoi une primatologue et l'huile de palme? Vous nous avez raconté, vous continuez de nous raconter cette histoire. Vous êtes allé à Bornéo il y a quelques années et vous avez remarqué que les orangs-outans que vous étudiez n'avaient plus de forêt pour se loger, pour se nourrir. Et c'était à cause de la déforestation et de la place que prend ces palmiers à huile. D'abord, on va poser les choses. L'huile de palme, on la retrouve dans quel produit de consommation courante? Vous avez le droit de faire une liste à l'après-vert. On note.
Dans tout, presque tout. Non, on peut la retrouver dans énormément de choses. Alors, si on prend en proportion, on a à peu près 80% des produits de l'agroalimentaire. Enfin, elle se retrouve à 80% dans des produits d'agroalimentaire qui vont des sauces, des pâtes à tartiner, des chips, éventuellement des laits infantiles aussi,
des gâteaux.
Des gâteaux, des pâtes à pizza, tous les produits manufacturés, alors la pâtisserie industrielle aussi, les viennoiseries, etc.
Alors ça me surprend pas forcément. En revanche, ce qui me surprend, c'est de la retrouver ailleurs. Dans quel type de produit?
Donc ça, c'est à peu près 80%. Ouais. Après, on a 19% dans tout ce qui est cosmétique, détergent, etc. Donc ça va du dentifrice au shampoing, en passant par des peintures, mais aussi par exemple par les lessives, tous les agents tensioactifs et autres contiennent de l'huile de palme. Ça peut être aussi, par exemple, dans certains médicaments, dans du Doliprane ou dans de la Biafine, il y a des petits dérivés. Parce qu'évidemment, de ce fruit, on fait énormément de choses. On extrait un grand nombre de molécules qui se retrouvent dans plein de choses. Et il reste un petit pourcent. Et ce petit pourcent n'est pas négligeable, c'est les biodiesels. Et en termes de volume, en Europe aujourd'hui, enfin en France, pardon, pas en Europe, en France, on va arriver à près de la moitié de nos importations en huile de palme qui vont finir dans nos réservoirs de voitures.
Oui, on dit bio-diesel, on devrait plutôt dire agro-diesel, hein, parce que ça n'a rien à voir avec le bio qu'on peut manger.
Alors cette huile de palme, il y en a plein de choses à dire. Avant de comprendre pourquoi elle est à ce point présente dans tous les produits de consommation, il faut dire d'où elle vient. Elle vient de quel arbre et où est-elle produite?
Elle vient d'un palmier, donc le palmier à huile, qui est originaire d'Afrique de l'Ouest. Donc il poussait en Afrique de l'Ouest tranquillement. Et en fait, il a commencé à être cultivé à plus grande échelle. Et il a commencé à être cultivé sur des grandes plantations. Et les premières ont eu lieu en Asie du Sud-Est, en particulier Malaisie, Indonésie. Et donc là, c'est les deux plus gros pays producteurs d'huile de palme. Et puis aujourd'hui, elle s'exporte à nouveau d'ailleurs en Afrique centrale. Elle revient chez elle, mais pas forcément sous la forme qu'on aimerait la voir, puisqu'elle est, elle arrive sur la forêt et ensuite aussi en Amérique latine.
Alors, pourquoi elle est partout cette huile de palme, Emmanuel Grundmann?
Parce
pourquoi
qu'elle
elle se retrouve dans tous les produits? Mais pourquoi? Quelles sont ses vertus?
Alors, elle est intéressante à plein de d'égards. Alors d'abord, purement, comment dire, agro-industriel, elle produit beaucoup. C'est l'une des plus, enfin, c'est la plus rentable en termes d'huile végétale.
C'est-à-dire petite surface, grosse production,
exactement.
C'est ça?
Exactement. Par rapport au soja, elle va être de 6 à près de 9 fois plus rentable sur une même surface.
Ensuite, elle est facile à transporter. Pourquoi?
Alors, parce qu'elle est, elle rancit très peu. C'est une huile qui est d'abord stable, elle rancit peu, elle est assez pâteuse, donc c'est assez facile à tenir.
Elle est nourrissante aussi?
Alors oui, elle a plein de, ouais. En fait, elle a plein de vertus. Enfin, en Afrique de l'Ouest, ils l'utilisent depuis toujours pour cuisiner. Donc le problème est pas tant dans l'huile.
Super alors cette huile de palme pour la santé.
Le problème, voilà, est pas tant dans l'huile de palme en tant que telle. Elle est dans la façon dont elle est cultivée. Et dans la surconsommation, comme toujours, en fait, c'est la quantité qui fait qui est néfaste.
J'ai lu aussi que sa couleur pouvait être un atout, notamment
tout
en matière de pâtisserie, de viennoiserie. Pourquoi ?
Bah, elle est très orange, donc elle est pleine de caroténoïdes. Oui. Et donc, du coup, quand vous avez toutes ces pâtisseries industrielles, que ce soit un croissant ou des gâteaux, ils ont une jolie petite couleur. Uh-huh. Et comme ils rancissent pas, ils gardent cette petite couleur dorée qui est plutôt agréable dans les rayonnages, surtout dans les grandes surfaces où vous avez ces lumières un peu blafardes. Donc, du coup, voilà, nouvel atout.
Devenir consommateur l'huile de palme, je passe à l'acte, c'est le titre du livre Emmanuel Grundmann que vous publiez chez Actes Sud. Donc dans consommateur, il y a consommateur. Alors justement, on va revenir sur ses bienfaits ou ses méfaits pour notre santé et sur l'environnement aussi, parce que ça nous préoccupe beaucoup dans la curiosité.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'histoire de l'huile de palme, de la fabrication à la consommation, c'est le thème de notre curiosité avec notre invité Emmanuel Grundmann. Alors, quand on pense à l'huile de palme, on pense forcément à une pâte à tartiner qui est montrée du doigt depuis quelques années. Y a beaucoup d'huile de palme dedans ?
Ah oui. Alors bon, c'est pas la majorité, la plus grosse portion, c'est le sucre. Et alors la composition va varier en fonction des pays. Il y a vraiment des recettes différentes. Mmh. Et on va dire huile de palme et sucre, c'est grosso modo 70% du pot de pâte à tartiner. Et après, ce qui reste, c'est les noisettes, le chocolat.
Ah, il y a du chocolat quand même dedans.
Il y en a un petit peu quand même.
Mais on aime ça, c'est ça le problème.
Oui, c'est vrai que c'est bon.
Et alors, la question, la réponse est peut-être pas simple, mais en quoi l'huile de palme peut être dangereuse pour notre santé?
Alors en fait, elle est dangereuse parce qu'on la consomme beaucoup et souvent à notre insu, et notamment parce qu'on est passé à une alimentation beaucoup plus manufacturée. Mmh. Et dedans, dans tous ces aliments qu'on consomme, il y a énormément de sucre et de graisse. Et parce qu'on en consomme plus, notamment l'huile de palme, mais c'est beaucoup d'acides gras saturés, et la portion d'acides gras saturés a grandi au fil du temps.
Et pourquoi c'est pas bien ça, les acides gras saturés ?
Consommer à outrance, ça provoque des problèmes.
On les stocke, c'est ça?
On les stocke. Ouais. Donc, on a beaucoup de problèmes d'obésité, mmh, de diabète qui ont été montrés du doigt par l'OMS.
Des problèmes cardiovasculaires aussi?
Des problèmes aussi cardiovasculaires, parce qu'en fait, tout après découle l'un de l'autre. Et c'est lié, en fait, à cette surconsommation l'huile de palme est montrée du doigt parce que c'est évidemment celle qui est le plus consommée dans les pays du Nord. Mais globalement, c'est d'acides gras saturés et de graisse et de sucre.
Qu'on ne trouve pas dans l'huile d'olive qui est plus saine, ou l'huile de colza.
Exactement.
Ou d'autres huiles.
Vive le régime méditerranéen. On rappelle ce qu'on disait il y a quelques jours avec l'un de nos invités qui était médecin et qui nous rappelait ce bon principe. L'huile de palme dans notre alimentation en France, ça date de quand?
Ça date à peu près de milieu-fin du 19e siècle, où elle a commencé à arriver chez nous.
Sidonie disait tout à l'heure dans la margarine. Oui, qui a eu cette drôle d'idée?
Alors en fait, c'est assez rigolo. Enfin, l'histoire de l'huile de palme globalement est assez fascinante. Alors pour ce qui est de la France et de la margarine, en fait, c'est Napoléon III qui a eu cette idée-là. Mmh. Parce qu'en fait, il y avait des problèmes de sous-nutrition ou de malnutrition dans la population ouvrière. Et donc, il a fait plancher des chimistes et des médecins sur la création d'un faux beurre, puisque le beurre était trop onéreux à cette époque-là. Donc, l'idée, c'était d'avoir un substitut qui soit bon marché pour permettre de pallier à ces carences. Et on est arrivé à cette margarine qui au début n'était pas tout à fait forcément avec de l'huile de palme, mais qui petit à petit s'est vue confectionner avec cette huile miracle. Mais en fait, la première arrivée sur en Europe, on va dire, ça est beaucoup plus ancien, c'est et c'est assez étrange. C'était sur les bateaux qui emmenaient les esclaves de l'Afrique vers les autres pays. En fait, on les nourrissait avec des régimes de noix de palme, comme elles sont très riches en vitamines. Du coup, ça permettait d'éviter le scorbut. Donc ça date quand même d'il y a assez longtemps. Donc ça, c'était la première occurrence d'utilisation de cette huile de palme. Donc c'est assez surprenant de voir comment finalement elle s'est immiscée petit à petit dans notre quotidien.
Et donc vous expliquiez, Emmanuel Grunemann, que cette palmier à huile vient d'abord d'Afrique de l'Ouest.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, en Afrique de l'Ouest, on le trouve à l'état sauvage, dans les forêts. Et en fait, le premier à vraiment avoir utilisé ces noix de palme en Europe, c'est un certain William Lever. Lever, c'est Unilever, c'est le même. Enfin, ça a été le conglomérat. Et en fait, William Lever avait hérité de la savonnerie de son père. Et on est en pleine révolution industrielle. Donc, il faut imaginer, on est en Angleterre et il y a énormément de suie. Les gens sont très sales. Et donc il y a une recrudescence de demande de savon. Et lui a d'abord eu l'idée d'utiliser, de faire des pains de savon individuels emballés dans des petits papiers comme ceux qu'on a aujourd'hui. Et il a commencé à utiliser, à importer de l'huile de palme. Et il l'importait d'Afrique, mais c'était récolté en fait de manière très artisanale dans la forêt. Et puis il avait besoin de plus en plus d'approvisionnement parce que la demande était de plus en plus grande. Et il a réfléchi à des palmeraies. Les premières, il a fait des tentatives en Afrique centrale, mais c'était pas très réussi vu la situation géopolitique, et donc du coup il a été vers l'Asie du Sud-Est et en particulier l'Indonésie, la Malaisie.
Ça veut dire que déjà au 19e siècle, William Lever, donc qui fait ce savon à l'huile de palme, il va vers l'huile de palme alors qu'on a déjà découvert l'huile d'olive en Syrie, Alep, ou l'huile de laurier d'ailleurs, et parce que c'est déjà moins cher l'huile de palme, mais c'est déjà un avantage industriel, économique.
C'est quand même un avantage économique qui n'est pas négligeable, et ça le reste parce qu'en fait l'huile de palme, enfin les plantations ne sont pas mécanisées, la récolte est entièrement manuelle, donc c'est que de la main d'œuvre qui peut être payée très peu cher. On est quand même dans la plupart des pays, enfin on est dans la ceinture tropicale, donc c'est beaucoup de pays qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc avec une main d'œuvre abondante. Qu'on peut payer vraiment très peu cher.
Mais aujourd'hui encore, c'est comme ça? Pourquoi c'est pas mécanisé, la culture de l'huile de palme?
Alors, parce qu'en fait, les palmiers poussent relativement haut. Enfin, ils peuvent pousser assez haut. C'est des gros régimes, en fait. Il faut imaginer un énorme régime de bananes, même poids, mais avec des fruits de la taille d'un abricot. Donc, ça pèse, je sais pas, 150-200 kilos, un régime. Et c'est assez haut, et c'est récolté avec une sorte de fossile qui est manié par des gens qui sont très experts. Et qui ensuite les transportent dans des camions, et tout ça se fait manuellement. Et c'est vrai que ça, c'est un avantage énorme parce qu'il n'y a pas ces machines très onéreuses à développer d'abord, à inventer, à développer, à acheter. Donc du coup, ça reste économiquement très très avantageux.
L'huile de palme au cœur de notre curiosité, l'huile de palme montrée du doigt, mais peut-être qu'il y a une solution, peut-être qu'on peut faire de l'huile de palme bio et bonne pour l'environnement. En tout cas, on va essayer de répondre à cette question dans un court instant sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
L'huile de palme fait partie de notre quotidien de consommateur. Céréales, biscuits, plats préparés, savon, crème de rasage, lessive, pâte à tartiner, glace, margarine, pâte feuilletée, même les boules de graines pour les oiseaux peuvent en contenir.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Pour répondre à une demande croissante de l'industrie mondiale, la culture des palmiers à huile s'est étendue dans les pays tropicaux, provoquant des déforestations massives en Indonésie et en Malaisie.
Sur RTL, la curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
La vérité sur l'huile de palme, son utilisation, sa culture avec la primatologue Emmanuelle Grudman qui est tombée dedans alors qu'elle voyageait à la rencontre des orangs-outans en Indonésie. À Bornéo, vous parliez de cette forêt qui était complètement dévastée, qui empêchait les orangs-outans de manger, de se protéger. Ils erraient comme ça, c'était promis à la mort en quelque sorte. Pourquoi l'huile de palme est responsable d'autant de déforestation?
Parce qu'en fait, c'est plus avantageux pour un industriel, pour une raffine, enfin pour une concession de s'installer sur une zone de forêt. Parce que c'est facile. Alors d'abord, on peut vendre le bois qui reste. Mm-hmm. On le coupe, on le vend. Après, on met le feu, ça va très vite. En plus, bon, ça fait de la culture sur brûlis. C'est toujours intéressant d'un point de vue pour les sols.
Plus riche, ouais.
Voilà. Et du coup...
Mais ça c'est... pousse vite après, les palmiers
ça
à huile.
Ça pousse relativement vite, un palmier à huile. Et d'accord. Ça produit assez vite.
Mais quoi, c'est en termes de mois, d'années?
Je non, d'années quand même. Ouais. C'est 5-10 ans à peu près. C'est quand même... Mais une fois que c'est à maturité, ça produit beaucoup. Donc du coup, c'est quand même assez rentable. Et puis l'idée, c'est d'avoir de plus en plus et de les espacer dans le temps et donc d'en avoir tout le temps à maturité. Et la plupart des plantations sont quand même des énormes plantations. Alors après, il y a des petits planteurs aussi. Donc c'est vrai que quand on dit oui, boycotter l'huile de palme, c'est une vraie et une fausse solution en même temps parce que c'est quand même une source de revenus pour plein de gens sur place. Donc c'est pas vraiment la solution. En fait, la solution, c'est de trouver une autre manière de la cultiver. Et plein de spécialistes disent, mais en fait, il existe un tas de terres agricoles dégradées qui sont là, qui existent. Il n'y a plus rien dessus. On peut mettre du palmier à huile dessus. Il poussera aussi. Peut-être un tout petit peu moins vite. Peut-être que ce sera, voilà, moins avantageux en termes de rentabilité à court terme, mais ça ne produira pas de déforestation.
Mais cette bascule, elle a commencé à se faire ?
Il y a quand même des choses, il y a des expérimentations qui se font. La pression des consommateurs fait que certains grands industriels, en particulier on parlait de la pâte à tartiner tout à l'heure, mais d'autres, alors en bout de chaîne, parce qu'eux sont directement en lien avec les consommateurs, eux font pression sur les concessions et les raffineries pour avoir une huile de palme un peu plus respectueuse de l'environnement parce que les consommateurs sont là et commencent à dire ouais, moi l'huile de palme j'en veux pas et donc du coup les choses commencent à bouger. Alors c'est bien trop lent le problème, parce que moi il y a par exemple la certification du bois. Maintenant on a ce certificat qui s'appelle FSC. On sait que quand on achète une table en bois FSC, ça garantit, il y a des critères qui sont stricts, garantit que la forêt n'a pas été rasée, que les droits des peuples ont été respectés, etc. L'huile de palme, c'est pas le cas. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de certificat qui garantisse quoi que ce soit.
Et même sur un pot de pâte à tartiner ou un shampoing, comment on sait qu'il y a de l'huile de palme si on veut cesser d'en consommer pour cesser de déforester?
Alors après, il faut un peu chausser sa loupe de chimiste et regarder tous les ingrédients. Et après, avec certains suffixes, M, Y, R, S, donc qui pourrait acide myristique par exemple, ça c'est par exemple un des suffixes qui dit ça c'est de l'huile.
Mais ça, c'est dans la cosmétique, ça, c'est pas dans l'alimentaire.
Ça, sinon, c'est écrit sur les produits alimentaires.
C'est récent, sous la pression des associations de défense de l'environnement, etc. Maintenant, c'est obligatoire de donner le type d'huile végétale. Avant, on pouvait simplement écrire huile végétale. Aujourd'hui, on est obligé d'écrire huile de palme.
Et si je vois huile de palme bio, je peux y aller? Ça veut dire que.
Alors,
elle
j'ai
est
envie de dire
dans
oui
des bonnes conditions.
Alors, moi, j'ai été visiter une plantation d'huile de palme bio en Colombie et c'est vrai que c'était plutôt très attrayant et ça fonctionnait très bien, c'était sur des anciennes terres agricoles, donc là, pas de souci. Sauf que cette plantation appartenait à un grand groupe qui avait aussi d'autres palmeraies qui, elles, étaient avec des
qui
soucis...
Pas bio,
et puis avec des soucis d'éviction de population locale. Donc ça, c'est le jeu aussi, le problème du jeu des filiales et des grands groupes. Il n'y a pas forcément une ligne constante sur chaque plantation d'un même groupe.
On a appris beaucoup de choses.
Merci
avec vous,
beaucoup.
Emmanuelle Grudman. On en apprend encore beaucoup d'autres avec ce livre « Devenir consommateur, l'huile de palme, je passe à l'acte ». C'est aux éditions Actes Sud. Kaizen, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.
Vous écoutez RTL.